Amis Burgiens, bonjour à vous.
Et voici pour eux, pour nous.
Pour vous, Electric Boogaloo, votre chronique à cœur et à plume sur la fine fleur graphique de la bande dessinée.
Anne Tissier.
Et Maxime Mott, vous êtes bien sûr Radio B.
Pour vous servir.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Amis Burgiens masqués, heureux confinés. Sous couvre-feu, sous couverture au dodo à 21h, bonjour à vous. Exceptionnellement, je vais présenter seule cette émission. Et oui, je suis sans Maxime en raison du confinement, mais vous aurez bientôt la joie de le retrouver pour Electric Boogaloo Stories. Voici pour vous une sélection exigeante de nos coups de cœur en cette fin d'année inoubliable que fut 2020. Après cela, pas le choix, il faut vous précipiter dans les meilleures librairies enfin rouvertes. Oui. Et pour commencer, un visage, celui d'un homme aux traits durs qui fume une cigarette dans la nuit. Son regard fixe le lecteur sans détour. Le titre de l'album est situé juste en dessous. On lit Richard Stark, Parker, adaptation et dessin Darwin Cook, d'Argo. New York City 1962, Parker vient de sortir de prison et retrouve sa femme Lynn qui l'a trahi et tenté de l'assassiner pour son rival et ancien complice Mel Resnick. Réduite au désespoir et à la honte, la jeune femme se suicide. Parker maquille sa mort en meurtre sadique pour détourner l'attention de sa proie et remonter jusqu'à elle pour se venger. Sur son chemin, il provoque le syndicat du crime dont Mel Resnick faisait partie et devient à son tour une proie pour les tueurs de l'organisation. Pour leur échapper, Parker change de visage et organise méticuleusement la destruction de cette organisation criminelle à l'aide de ses relations dans le banditisme. Puis il reprend une activité normale, le braquage de banques et de casinos, en organisant des casses spectaculaires. Et oui, à l'origine de ce récit remarquablement mené et structuré, une compilation de 4 albums publiés entre 2009 et 2013. Son auteur est le dessinateur canadien Darwin Cook, décédé trop tôt en 2016 à 54 ans, Ups, sniff, qui avait adapté en BD 4 romans noirs de Richard Stark, à savoir Le Chasseur, Peau Neuve, En Coupe Réglée et Planck à Luna Park, publié entre 1962 et 1971. Notons que notre ami Darwin, au fur et à mesure du vide laissé par son absence, apparaît de plus en plus comme un grand auteur de BD. Il ne pouvait pas ne pas être réédité. C'est pourquoi Urban Comics a réimprimé en 2019 notamment The New Frontier, l'un des meilleurs albums sur la Justice League, fait fort rare dans le monde des comics américains, crachant de la bulle et des cases au kilomètre, sans regard en arrière sur la qualité de la production. Saluons aussi la maison d'édition d'Argo pour avoir entrepris un tel travail éditorial. Il s'agit de l'expression matérielle de la rencontre entre deux auteurs. Donald Westlake d'un côté, alias Richard Stark, créateur du personnage de roman noir Parker, brute épaisse, taciturne braqueur de banque ultra compétent et dépourvu de prénom. Et de l'autre, Darwin Cook, dessinateur exceptionnel. Tous les trois, si l'on peut dire, sont réunis dans un chapitre d'introduction intitulé « Parker, Stark, Cook, les professionnels » de Doug Headline. D'Argo s'offre aussi le luxe de reprendre une chronique du génial auteur de romans noirs, Jean-Patrick Manchette, sur Donald Westlake. Chapeau également aux graphistes qui ont conçu une couverture aussi merveilleusement élégante dont il est impossible de se lasser. Un pur hommage au film noir hollywoodien. Là où beaucoup d'adaptations ont raté à retranscrire hors du roman d'origine les caractéristiques de Parker, Darwin Cook réussit à transposer visuellement le style de Stark et son sens très technique du récit. Cook comme Stark sont des professionnels de l'écriture. L'un comme l'autre, pour vivre convenablement par le mot et par le dessin, ont dû produire leurs travaux au kilomètre. Ils ont ainsi saisi l'essentiel de leur art sous forme purement technique, mais avec passion et enthousiasme jusqu'au brio. Darwin Cook maîtrise la ligne claire à l'américaine et son sens du mouvement grâce à son expérience du design et du dessin animé dans la série Batman Adventures de Paul Dini des années 90, une série culte qui, pour les amateurs, rappelons-le, a un certain Mark Hamill qui double le Joker. Vous savez, Mark Hamill, alias Luke Skywalker, est aussi une voix remarquable et un acteur très intéressant. Ce gros livre a les dimensions qui rivalisent, il faut bien le dire, avec le petit Robert des noms communs ou des noms propres. C'est une intégrale qui mérite son nom et ses lettres de noblesse. Vous savez, les intégrales, ce phénomène éditorial relativement récent dans le monde de la bande dessinée. C'est imposant quand tu l'offres, c'est un beau cadeau quand tu te le fais offrir. Tu te dis qu'on se fout pas de toi. Parenthèse toute personnelle. Et j'aimerais que Marini sorte bientôt le tome 6 des Aigles de Rome avant de nous imposer une intégrale partielle pour nous faire patienter encore 3 ans. Je referme la parenthèse. L'intégrale n'est pas une facilité éditoriale faite pour que les lecteurs n'aient plus à gérer les volumes des séries dans leur bibliothèque, surtout ceux qu'on prête à des amis qu'on ne revoit plus et qui ne vous rendent jamais vos livres. Les intégrales, donc, c'est beau, c'est gros, mais c'est cher aussi. C'est, disons, que celles qui sont vraiment excellentes sont plus rares que celles qui sont capables de transcender la simple compilation pour devenir une somme artistique. Et par cœur, et plus qu'une simple compilation, et une véritable somme artistique, érigeant son auteur au panthéon des meilleurs artistes de la bande dessinée. Oh oui! Parmi elles, donc, précipitez-vous sur celle-là, par cœur, sortie au mois de mai 2020 dans les meilleures librairies, des libraires masqués, une compilation dont on ne peut plus dire autre chose que « Waouh, trop dingue, trop fou !» à lire absolument pour prendre la mesure de ce que la pop culture peut produire de mieux. Et nous vous proposons un non moins élégant titre du célèbre Lilo Schifrin, bien évidemment, la musique du film « Bullet ». Continuons toujours sur cette même ligne critique exigeante avec un deuxième album magnifique à se procurer très très vite. Ce n'est plus un visage, mais cette fois-ci un point lancé vers le lecteur avec tatoué ces mots « Your face here », le titre « Puta Madre est une exclamation de joie, mais aussi un juron. Puta Madre, de Run et Neyef, est un spin-off, une intégrale de 200 pages, regroupant les 6 chapitres d'une mini-série intitulée Puta Madre, parue en 6 fascicules entre février et août 2017 au sein du label 619, aux éditions Ankama, le meilleur du comics alternatif pour adultes. Et oui, cher lecteur burgien, comics ne veut pas dire album de super-héros, mais simplement bande dessinée américaine. Nous suivons donc l'histoire d'un jeune Américain d'origine mexicaine, un latino en somme, Jésus, vivant dans la Californie du Sud, à Neyland, dans le comté d'Imperial. À l'âge de 12 ans, il ne sait ni lire ni écrire, sa mère non plus ailleurs. D'ailleurs, son jeune frère meurt accidentellement et le voici accusé par la justice de l'avoir roué de coups jusqu'à le tuer. Comment se défendre quand on est pauvre et analphabète, mais avec des principes, ceux qui consistent à vouloir protéger sa mère irresponsable? Il est donc emprisonné à 12 ans, pour 7 ans, donc pour un crime qu'il n'a pas commis. Comment, me direz-vous, cela est-il possible, un enfant en prison? Et la justice des mineurs? Eh bien, aux États-Unis, près de 2600 enfants sont en prison, condamnés à perpétuité réelle. Tout enfant reconnu coupable de crime de sang peut perdre son excuse de minorité et être jugé comme un adulte, risquant jusqu'à la peine de mort. Et cet album extraordinaire va vous dire pourquoi c'est possible tout au long du parcours du personnage principal, de sa vie en prison, de ses rencontres avec ses pairs de substitution et avec ses ennemis. À chaque chapitre, le jeune homme grandit et ouvre les yeux sur le monde, celui de la société américaine de Californie, plus particulièrement celle des classes pauvres, composée des criminels, des marginaux, à savoir ici les gangs de la mafia mexicaine en prison, les clubs de motards, les vétérans anciens Marines, les travailleurs journaliers sur les chantiers et enfin les catcheurs de la lucha libre. La grande force de cet album est de ne jamais céder à la sensiblerie grâce à la puissance éthique du personnage principal et à la qualité descriptive et documentaire des planches et du récit. Le personnage principal est immédiatement attachant et impressionnant, même du haut de ses 12 ans dès la première page. Sa transformation physique d'agneau en loup l'amène à dire de lui « J'étais devenue une machine à baiser et à casser des gueules, le cauchemar absolu de toute féministe qui se respecte, le mâle alpha dans toute sa splendeur. » Et oui, un sacré mâle alpha dessiné avec un style visuel tel que son charisme rayonne dans chaque case où il apparaît. Surtout son incroyable regard dont on ne s'en remet pas vraiment. Mais il a également ses fragilités. Car cette histoire est la sienne et c'est lui qui la raconte en voix off. Il donne au lecteur une leçon de vie et de résistance face au désespoir et à la violence. Car jamais Jésus ne cède, même s'il doit tuer pour survivre, il doit garder sa dignité, toujours sur la ligne de partage entre le bien et le mal. Jésus, ou El Diablo, comme le surnomment ceux qui croisent son chemin. Tout simplement un homme qui, au final, n'a qu'une seule vraie règle dans la vie, toujours protéger ce qu'il aime. Les autres personnages, même secondaires, sont eux aussi dessinés et décrits avec précision. Chaque fascicule est introduit par une page graphique qui explique les phénomènes sociaux qui donnent naissance aux délinquants, criminels, marginaux et travailleurs pauvres, finalement les laissés pour compte de la société WASP américaine. C'est vrai que c'est dur. C'est pur, souvent brutal. Notons au passage la présence d'une petite vignette sur chaque couverture. Disapproved by the Comics Code Authority. Et oui, comme c'est bon d'être désapprouvé par l'autorité du Comics Code, toujours en vigueur. Beau, efficace, redoutablement efficace. Un vrai coup de poing dans la tête du lecteur qui en redemande. D'ailleurs, cela nous donne envie d'écouter une petite musique douce, celle du power metal du groupe Angra, Spread Your Fire. beaucoup mieux après avoir écouté ça. Pour poursuivre notre présentation de coup de cœur en cette fin d'année Covid-1, permettez-moi de vous poser cette question, en particulier, mesdames. N'avez-vous jamais rêvé de changer de sexe pour une soirée, pour voir votre entourage sous un autre jour? Laissez-moi vous présenter alors la jeune Bianca. Elle a décidé que sa vie de femme mariée ne ressemblerait pas aux bons mots de Guy de Maupassant sur le mariage, j'ouvre les guillemets. La journée, les mauvaises humeurs, la nuit, les mauvaises odeurs, je referme les guillemets. Non, Bianca est romantique et fait partie de la haute société d'une ville italienne à l'époque de la Renaissance. Elle doit faire un mariage de raison par intérêt. Vous me direz, à l'époque, un mariage par intérêt, c'est un mariage, tout simplement. Or, malgré les conseils de sa tante et de sa mère, elle préfère écouter sa marraine. Pourquoi ? Parce que sa marraine possède un objet magique utilisé par les femmes de la famille. Accrochez-vous, ami burgien, masqué et reconfiné. Cet objet magique est une peau. Une peau d'homme à enfiler comme une combinaison. C'est celle de Lorenzo, jeune et faible, à la peau d'ange dorée, douce comme de la soie et aux cheveux noirs comme l'ébène. Ouais, c'est nettement plus sexy qu'un masque. Grâce à cet accessoire de travestissement, Bianca franchit les frontières des interdits, des femmes de son milieu, pour faire connaissance avec son fiancé, le charmant Giovanni, fils d'un riche marchand. Celui-ci semble peu se soucier de sa fiancée, car à ses yeux, le mariage n'est pas fait pour l'affection. C'est une sorte d'opération commerciale qui passe par le lit. Pourtant, sous les traits de Lorenzo, le charme opère et très vite Bianca ouvre les yeux sur le monde pour s'apercevoir qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'il veut paraître. Il existe l'amour entre hommes, le mariage est fortement hypocrite, mais pire encore est l'hypocrisie de la morale et du puritanisme religieux. Bianca pourra-t-elle être de taille pour lutter pour sa liberté de penser et sa liberté d'aimer ? Laissez-vous aller à ce récit des aventures de cette surprenante jeune femme, tout à la fois gracile et intègre. Peau d'homme, de Hubert et Zanzime, est un album sorti en avril 2020, aux éditions Glénat, en plein premier confinement. Zanzime, le dessinateur, nous avait enchanté avec le merveilleux « L'île aux femmes », racontant l'histoire d'un aviateur durant la Première Guerre mondiale qui crache sur une île peuplée d'une tribu de femmes sauvages. Que lui arrive-t-il, lui, misogyne, désabusé, à se trouver en proie à des stratégies de plus en plus compliquées pour devenir le héros de ces dames, qui, malheureusement pour lui, sont plus proches des Amazones que des jeunes filles en fleurs sorties du couvent. Hubert a signé les scénarios de La chair de l'araignée sur l'anorexie et La nuit mange le jour de récits sensibles. Malheureusement, il nous a quittés à 49 ans en février dernier. Le récit est militant, efficace, linéaire, sensible, subtil. Les dialogues sont pétillants. Le dessin est très aéré, avec des pleines pages de scènes construites dans une architecture urbaine qui rappelle les enluminures des manuscrits médiévaux. Les pages alternent les scènes d'intrigue amoureuse comme les scènes d'action avec les moments de contemplation. Les personnages sont en lignes claires et à plat de couleurs. Les couleurs sont peu nombreuses ou déclinées en camailleux. Bref, Peau d'homme est une réussite visuelle et une histoire drôle, émouvante et militante. On court vite se l'acheter dans toutes les bonnes librairies réouvertes de la ville. Et en raison de la disparition du scénariste Hubert, nous ajouterons, pour rendre hommage à ce jeune homme talentueux, un mot au sujet du tome 4 qui clôt la série Les Ogres Dieux, première née, qui vient de paraître, donc qui est considérée comme une saga dite Dark Fantasy, dessinée par Bertrand Gatignol et publiée entre 2014 et 2020 aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Nous avions consacré un coup de cœur au tome 2 dans notre émission, intitulé « Demi-sang », qui était consacré à l'un des personnages principaux, le grand chambellan Yori Draken, un homme ambitieux désirant renverser les ogres au pouvoir. Résumons-nous. Les volumes « Petit », « Demi-sang », »,« Grand homme » et « Première née » racontent une histoire, plus exactement un conte, situé a priori à la fin du Moyen-Âge, disons le début de la Renaissance d'un point de vue stylistique, celui d'une famille d'ogres descendue de la montagne pour conquérir le monde des hommes, de vallée en vallée, pour les réduire en esclavage, afin de les faire souffrir au gré de leurs caprices. Les trois premiers volumes sont le récit de la décadence des ogres. En effet, la naissance de Petit, un ogre minuscule de la taille d'un humain, remet en question l'ordre des ogres, et aussi l'ambition des hommes qui veulent reprendre le pouvoir aux ogres par leur complot. A contrario, Donc le dernier volume qui vient de paraître, Première Née, nous raconte l'histoire de Bragnante, première ou Grèce, dont la taille surpasse celle de son père et dont les sœurs ne cessent d'engendrer des êtres de plus en plus grands de génération en génération. Fille légitime du roi, dit le fondateur, elle est élevée par sa tante Nita, femme lettrée, amoureuse des livres. Bragnante est la maîtresse du gynécée, autrement dit la prison des enfants, et y élève ses frères et sœurs, car chaque concubine du roi qui tombe enceinte meurt en couche pour avoir engendré un enfant toujours plus gros. Bragnante engendre elle aussi, malgré elle, et violée par l'un de ses frères, une lignée d'ogres. Ce volume décline cette lignée qui prend fin avec Hémione, mère de Petit, donc le refondateur, à qui elle fait aimer les livres et non la guerre et la violence, contrairement aux ogres mâles, donc descendants du premier roi fondateur. La boucle est ainsi bouclée. C'est donc un magnifique album de grande taille, d'un peu plus de 150 pages, en noir et blanc et niveau de gris, avec un style graphique, un parti pris, construit, donc d'un point de vue visuel tout à fait envoûtant. Les contours sont en aplats noirs, rappelant la carte à gratter, suscitant une sensation de relief nocturne, fantastique et gothique. Le dessinateur Bertrand Gatignol magnifie là encore, comme pour les précédents volumes de la série, les architectures intérieures et extérieures en jouant sur les différences d'échelle entre les personnages. Comment ne pas penser aux illustrations de Gustave Doré, immortalisant Gargantua et Pantagruel, fable philosophique de François Rabelais. Pourtant ici, nous sommes loin des leçons de vie et de l'humour grivois et ironique de Rabelais. Bien au contraire, Hubert et Gatignol nous plongent dans un monde impitoyable où même les ogresses doivent se battre pour survivre face à la violence des mâles guerriers. À lire sans modération. Et nous nous quittons en musique sur un air très frivole, Apocalyptica, All of the Mountain King.